Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Il est exactement 18h à Bamako. L'armée malienne a arrêté un dirigeant du FLM dans la région de Mopti, Alaï Bokarija, est considéré comme le bras droit d'Amadou Koufa, le prédicateur radical et chef du Front de Libération du Massina. Il a été transféré à Bamako. Certains observateurs estiment que cette arrestation intervient après près de 2 ans de radicalisation du mouvement djihadiste dans la région. Pour André Bourgeot, spécialiste du Sahel, la réussite des actions terroristes dépend de leur degré de radicalisation. La section syndicale des travailleurs de Transrail, membre de l'UNTM, dénonce les difficultés que traversent les chemins de fer du Mali. Ses responsables demandent au chef de l'État d'autoriser les actionnaires à investir pour sauver l'entreprise. Colère des étudiants de l'École normale supérieure du Mali. Ils ont manifesté ce matin pour demander leur participation au concours d'entrée à la fonction publique des collectivités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Assetou Kanté est à la présentation de ce journal. Un dirigeant d'un groupe djihadiste de la région de Mopti a été arrêté à Alaï Bokarija, bras droit d'Amadou Koufa, prédicateur radical et chef du Front de Libération du Massina, a été arrêté samedi selon une source sécuritaire malienne par l'armée nationale avant d'être transféré à Bamako. Les détails avec Famoussa Sidibé.
Alaï Bokarija est considéré comme le financier du FLM. Pour des sources proches du gouvernorat, c'est un gros poisson qui vient de tomber dans les filets des forces armées. Cette arrestation, toujours selon les mêmes sources, aurait décapité en partie le Front de Libération du Massina. Ce groupe est apparu en début d'année dans cette région et est dirigé par Amadou Koumfa. Ce prédicateur extrémiste Peul a, selon les services de sécurité maliens, l'ambition de créer un État islamique au centre du Mali. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme arrêté a reconnu que le FLM avait un vaste plan pour déstabiliser le Mali. L'armée malienne a lancé fin octobre une vaste opération dans la région de Mopti pour traquer les djihadistes et assurer la sécurité. Cette opération, qui doit durer 3 mois, a permis de tuer le 29 octobre 5 djihadistes à Tchibanda, près de la frontière burkinabé.
Selon certains observateurs, cette arrestation de l'un des responsables du Front de Libération du Massina intervient après près de 2 ans de radicalisation du mouvement djihadiste dans la région. Pour André Bourgeot, spécialiste du Sahel, la réussite des actions terroristes dépend du degré de radicalisation.
Mais au vu de ce qui se passe depuis à peu près un an et demi, on voit bien qu'il y a une radicalisation de ces mouvements et une présence active sur l'ensemble du territoire national. La preuve en est, c'est qu'il y a eu plus récemment Sévaré, qui a été revendiqué par le Front de Libération du Massina. Vous avez eu les attentats à la frontière ivoirienne, à la frontière mauritanienne. Non, je pense qu'il y a une prolifération des actions. Donc le problème de fond qui se pose, est-ce qu'il y a une concertation dans les conditions d'intervention de ces actions? Et pour en revenir à la situation de Daesh, on est en droit de penser que il y a eu concertation, élaboration d'une stratégie, je dis bien d'une stratégie d'intervention pensée dans différents endroits, que je cite encore une fois, le Liban du Sud, l'avion russe, Sharm el-Sheikh, et puis maintenant la France.
Sur la page Facebook, le compte Twitter de Studio Tamani, vous pouvez réagir à toutes ces informations.
Tamani.
La section syndicale des travailleurs de Transrail, membre de l'UNTM, se mobilise pour dénoncer les difficultés qui traversent les chemins de fer du Mali. Son secrétaire général demande au chef de l'État d'autoriser les actionnaires à investir pour sauver l'entreprise. Abdoulaye Berthe est secrétaire général de la section syndicale de l'UNTM Transrail. Il est au micro de Omar Ouigalo.
La société Transrail a des difficultés. Des difficultés liées au chemin institutionnel prévu le 12 mai 2010. Mais depuis le 12 mai 2010 jusqu'à nos jours, rien n'a été fait. Or, c'est le seul schéma qui a été retenu par les États, les bailleurs de fonds et le concessionnaire dans le cadre de faire développer l'entreprise. Mais rien n'a été fait. Parce qu'on sait que le premier schéma a échoué, la concession intégrale a échoué. Donc ce schéma consiste à mettre en place une société de patrimoine qui va garantir les gros investissements pour la voie. Le chemin de fer ne peut pas marcher sans investir. Mais devant ça, c'est l'idée politique, c'est l'esprit politique qui peut gérer. Que les chefs d'État, à travers leur département transport, autorise l'actionnaire de référence avec son opérateur à dépenser pour le matériel et l'État va s'occuper des parties les plus dégradées de la voie pour permettre la continuité la circulation des trains en attendant la mise en œuvre effective du schéma institutionnel.
Je vous l'annonçais dans le titre, les étudiants de l'école normale supérieure sont mécontents. Ils ont manifesté ce matin pour dénoncer leur participation au concours d'entrée à la fonction publique des collectivités. Selon eux, aucun quota n'a été réservé pour les sortants de l'UNSUP. Les étudiants envisagent d'autres manifestations. Mamadou Koulibaly est le secrétaire adjoint à l'organisation de l'AEM de l'UNSUP. Il est au micro de Barké Cissé.
Nous avons malheureusement constaté qu'au niveau du concours d'entrée à la fonction publique des collectivités, aucun quota n'a été réservé pour les sortants de l'INSUP au niveau de l'enseignement secondaire général. Donc face à cette situation, nous nous sommes questionnés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de besoin? S'il n'y a pas de besoin, pourquoi l'INSUP continue de former les gens? Nous avons jugé nécessaire de faire une manifestation afin de nous faire attendre. Le fait, effectivement, les étudiants sont sortis massivement, ainsi que les sortants. L'objectif, c'est de dire nous voulons faire le concours. Nous voulons participer au concours parce qu'on ne peut pas organiser un concours d'entrée à la fonction publique des collectivités sans les sortants de l'INSUP. Ça, c'est pas possible. Ou bien qu'on fasse l'intégration directe des sortants de l'INSUP. Nous sommes en train de voir avec l'autorité parce que normalement, on devrait faire la marche aujourd'hui. Bon, puisqu'on n'a pas pu avoir l'autorisation de la marche, nous avons jugé nécessaire de respecter certaines procédures afin d'obtenir cette autorisation. En fonction de ça, nous allons fixer la date.
Le budget alloué au sport va être considérablement rehaussé prochainement. L'annonce a été faite samedi par le président de la République alors qu'il recevait les Aiglonais médaillés d'argent de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans en Chili. Le chef de l'État a aussi reçu les basketteuses championnes d'Afrique des moins de 16 ans. Ibeka a par ailleurs promis un logement à chacune des basketteuses et 25 millions de francs CFA pour chaque footballeur cadet. Le président Ibeka au micro de nos confrères de l'ERTM.
Et je crois que, monsieur le ministre des Finances, les prochaines prévisions budgétaires devront rehausser notablement le budget alloué au sport. On ne peut pas avoir une chose secondaire. Et il faudrait donc que nos politiques nationales en tiennent compte. Que ce ne soit pas seulement les jours de victoire ou les jours où nous sommes en compétition à très haut niveau, que chacun de nous doit avoir le souci du sport. C'est quotidien. Les enfants de la vie, c'est un combat. C'est un terrien. Cette coupe-là, nous pouvions l'avoir fabuleusement, avec un score fleuve. Mais on se dit aussi que tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons savoir gré à nos filles de ce qu'elles ont fait pour le Mali. Chacune d'entre vous aura une maison. Chacune d'entre vous aura un iPad. C'est le moins que l'on peut faire. Quant à vous, cher cadet, je vois que chacun de vous pourra enrichir son compte bancaire de 25 millions.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, quelques tours dans la région. Les activités du RAVEC ont été lancées ce matin à Ansongo. Une rencontre avec la population a été organisée afin de lui expliquer l'importance du recensement. Les autorités de la ville étaient sur place. Cette troisième phase du recensement va durer 3 mois. Même action de lancement des activités du RAVEC ce matin à Kita. 33 motos ont été remises aux agents pour atteindre les zones reculées. L'objectif de cette troisième phase du recensement est de pérenniser le RAVEC. Le programme va durer 1 an. Les motos ont été mises à disposition par le projet d'appui au processus électoral. Une formation sur le droit des enfants a débuté ce matin à Sikasso. L'atelier est organisé par l'ONG Save Children International. Selon les organisateurs, 6 enfants sur 10 subissent des travaux forcés. Du 15 au 17 novembre, le film de la vie de Thomas Sankara sera projeté à Mopti, Sévaré et Djéné, réalisé par Christophe Cupelin, cinéaste suisse. Ce film retrace la vie politique et l'assassinat du dirigeant burkinabé. Il vise à mieux informer les jeunes sur ce leader africain. Les agents de santé des Koulikoro ont débuté ce matin une formation sur la gestion du système de santé. Elle devrait renforcer la capacité des agents sur la sensibilisation et la mobilisation de la population en matière de santé. Financée par l'USAID, cette session va durer 5 jours. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Sédou Fomba est déjà là avec moi. Bonsoir, Sédou Fomba.
Bonsoir.
Alors, ce soir, vous allez parler de l'attentat de Paris et de la force Barkhane au Sahel.
Alors, à cette occasion, la multitude d'attaques perpétrées par les terroristes vendredi à Paris, c'est sur ces graves événements que se penche le grand dialogue de ce lundi. L'état d'urgence est en vigueur et le président Hollande parle d'actes de guerre qu'annonce ces attaques terroristes si spectaculaires et si inédites pour la France et pour le reste du monde. Quelles peuvent être leurs conséquences? Sommes-nous à un tournant dans la lutte contre le terrorisme? Les événements de Paris vont-ils avoir une incidence sur la situation des pays sahéliens comme le Mali? Ce sont entre autres les questions du jour, des questions auxquelles vont répondre nos invités qui sont André Bourgeau, directeur de recherche au CNRS à Paris, spécialiste du Sahel, Daniel, journaliste, écrivain, et Baba Dakono qui est analyste.
Merci et très bon débat.